Radio Kapi. Oh, Kapi.
La réouverture de l'aéroport de Goma, la sécurisation des zones environnantes et le rapatriement des blessés et des dépouilles, c'est parmi les résolutions adoptées hier au sommet conjoint extraordinaire des ministres de l'EAC et de la SADC, réunion sur la crise dans l'est de la RDC. Entre-temps, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU accepte d'enquêter sur l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Et puis cette inquiétude de la Fédération internationale pour les droits humains et l'Organisation mondiale contre la torture. Elle déplore les graves violations du droit international et du droit humanitaire commises par les parties en conflit dans l'est de la RDC. Ceci est contenu dans une déclaration parvenue hier à Radio Kapi. Et puis, l'invité de ce matin, Gisèle Kaimbani, directrice générale de la radio LFM basée à Goma. Pour elle, l'autocensure est recommandée en cette période pour couvrir l'actualité dans la ville de Goma. Elle nous parle de la vie des médias actuellement au chef-lieu du Nord Kivu. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord cette nouvelle, rencontre ce samedi à Dar es Salaam en Tanzanie des chefs d'État des pays de la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, et ceux de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour un sommet conjoint extraordinaire sur la crise dans l'Est de la RDC. Ce sommet a été précédé hier par une réunion des ministres des Affaires étrangères des deux organisations régionales en guise de préparation des discussions objectifs, évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, co-présidée par les ministres Musalia Mudavadi du Kenya et Amon Muwira du Zimbabwe. La réunion a débouché sur un appel à la cessation des hostilités dans l'est de la RDC. Parmi les résolutions adoptées figurent la réouverture de l'aéroport de Goma, la sécurisation des zones environnantes et le rapatriement des blessés et des dépouilles. Les ministres de l'EAC et de la SADC ont également insisté sur la nécessité d'un dialogue inclusif entre les parties prenantes et d'une coordination entre le processus de Nairobi et celui de Luanda. Une réunion des chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC est prévue dans 5 jours pour encadrer les négociations et à moyen terme, les ministres recommandent le retrait des forces étrangères non invitées et la mise en place d'une équipe technique conjointe pour coordonner les efforts de stabilisation. Pendant ce temps, les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont accepté hier de lancer une enquête sur les exactions dans l'est de la RDC où sévit une offensive du groupe armé M23 soutenue par les troupes rwandaises. Le projet de résolution présenté par Kinshasa a été adopté sans vote lors d'une session extraordinaire à Genève. Dans un premier temps, une mission d'établissement des faits nommée par le Haut Commissaire aux droits de l'homme s'épanchera sur ces abus. Après un premier rapport dans environ 7 mois, une commission d'enquête internationale composée de 3 experts désignés par l'ambassadeur suisse à l'ONU à Genève prendra le relais. Le texte exige le retrait du M23 et condamne le soutien de l'armée rwandaise à ce groupe dans l'est de la RDC. Lors de cette session, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a tracé la piste d'investigation accusant le Rwanda d'être responsable des crimes de guerre dans l'est de la RDC. On écoute le ministre Patrick Muyaya dans cet extrait choisi par Askin Zibiatayoro.
Nous appelons donc ces conseils à tenir le Rwanda responsable de ses crimes de guerre et de ses crimes contre l'humanité, notamment les dépeuplements forcés des populations et leur remplacement par d'autres ainsi que la nomination des nouvelles autorités administratives dans les buts d'occuper définitivement ces territoires. Il est urgent d'exercer une pression internationale pour que le Rwanda cesse immédiatement son soutien à ces groupes armés et s'y retire tout aussi immédiatement du territoire congolais. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste pleinement engagée dans la recherche de la paix et de la stabilité. Nous réaffirmons notre volonté de travailler de manière constructive avec tous les acteurs régionaux et internationaux, mais il est impératif que la communauté internationale soutienne fermement nos efforts pour mettre fin à cette crise de protection et à la souffrance de notre peuple dans la partie est de notre pays.
Du côté du Rwanda, c'est un autre entendement. Son représentant à cette session spéciale accorde l'importance aux initiatives régionales en cours pour la paix entre le Rwanda et la RDC. Selon James Ngango, ambassadeur du Rwanda à l'ONU Genève, le Rwanda ne peut pas être tenu responsable de la situation d'instabilité à l'est de la RDC. James Ngango, on l'écoute.
Nous nous opposons à toute tentative de la RDC de présenter le Rwanda comme étant responsable de la situation dans l'est de la RDC. Chacun le sait, il s'agit d'une tactique destinée à échapper à ses responsabilités face aux atrocités des groupes armés contre leurs propres citoyens. Toutefois, la situation actuelle constitue une grave menace, une menace immédiate pour le Rwanda. Après les événements à Goma, on a constaté un risque d'offensive à grande échelle contre le Rwanda. Un nombre important d'armes et d'équipements militaires ont été stockés près de l'aéroport de Goma, à proximité de notre territoire. Les opérations contre le M23 ciblent en lieu et place le Rwanda. Le Rwanda n'attendra pas que cette menace se matérialise. C'est la raison pour laquelle notre pays adopter des mesures pour éviter tout débordement.
Toujours en marge de la session spéciale du Conseil des droits de l'homme sur la RDC à Genève, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a fait savoir que depuis le début de cette année, la mission onusienne fait face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. Elle a exprimé ses craintes quant aux conséquences à moyen et long terme, notamment la résurgence du choléra, le risque élevé de monkeypox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles. La chef de la MONUSCO plaide donc pour des mesures urgentes afin de stabiliser la région. Je vous propose de l'écouter, d'écouter son intervention.
Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président, je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile.
Des propos recueillis par Askenzi Biataoro. Dans l'actualité, notez aussi la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des États de l'Afrique centrale, réunie en Conseil de paix et de sécurité hier à Malabo, en Guinée équatoriale, sur la situation humanitaire en Afrique centrale. Il condamne fermement le groupe M23 soutenu par le Rwanda et l'enjoigne de cesser immédiatement ses offensives et de quitter les territoires occupés illégalement et de respecter les couloirs humanitaires. Le Conseil appelle aussi au retrait des forces des défenses rwandaises du territoire congolais, y compris la normalisation du fonctionnement de l'aéroport de Goma en vue de faciliter le retour des membres du mécanisme de vérification étendu renforcé. Enfin, le Conseil réaffirme également son soutien au processus de Luanda et de Nairobi ainsi que l'accord cadre d'Addis Abeba de 2013 en vue d'un retour de la paix durable dans l'est de la RDC et dans la sous-région des Grands Lacs. Entre-temps, la troisième zone de défense des FARDC, commandée par le lieutenant-général Pacifique Masunzu, rassure la population du Sud Kivu, en particulier celle du territoire de Calais, de sa détermination à stopper l'avancée du M23 vers le chef-lieu du territoire de Calais et la ville de Bukavu. Le porte-parole de la troisième zone de défense, le major Nestor Mavulisa, annonce que le général Masunzu a inspecté toutes les lignes de front jeudi. On écoute le porte-parole de la troisième zone de défense dans ses propos. Recueilli par Jean Kassami.
Le commandant de la troisième zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique, vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire des Calais, 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi, faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population, sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national, à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs. Nous appelons toute la population de la province du Sud-Kivu en général, et celle de la ville de Bukavu en particulier, au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit.
Par ailleurs, je vous l'ai dit dans les titres, la FIDH, Fédération internationale pour les droits humains, et l'OMCT, Organisation mondiale contre la torture, disent s'inquiéter des graves violations du droit international et du droit humanitaire commises par les parties en conflit dans l'Est de la RDC. Dans une déclaration parvenue hier à Radio Kapi, ces deux organisations, regroupées au sein de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains, exhortent à des mesures immédiates pour garantir la sécurité des militants des droits de l'homme. Elles insistent sur la nécessité d'établir la responsabilité des auteurs de ces violations afin de lutter contre l'impunité. Des détails avec Billy Van Lutumba.
La déclaration de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains intitulée « Protégeons de toute urgence les défenseurs des droits humains à risque au nord et au sud Kivu » porte sur les villes et cités de Goma, Sake, Masisi et Minova et les autres localités où se déroulent les combats entre les FRDC et les rebelles du M23. Ces zones, précise l'Observatoire, sont plongées dans un chaos et une crise humanitaire sans précédent rendant difficile la surveillance et la documentation des violations des droits reconnus aux populations. Une situation qui empêche de porter assistance aux populations vulnérables, aggravant ainsi davantage leurs conditions. Face à ce tableau humanitaire alarmant, l'Observatoire exige des parties au conflit qu'elles s'accordent immédiatement sur l'instauration durable des couloirs humanitaires conformément au droit international humanitaire. D'autres recommandations sont notamment des garanties pour la protection des défenseurs des droits humains en tant que civils au titre du droit international humanitaire, des garanties pour le respect, le soutien et la protection pleine et effective des activités des défenseurs. Par ailleurs, l'Observatoire appelle instamment les acteurs étatiques et les organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux à reconnaître le rôle crucial des défenseurs dans la prévention, les processus de négociation pour la paix et la sécurité, le règlement des conflits et la reconstruction après conflit. Il faudrait également veiller à l'établissement de la responsabilité des auteurs des violations afin de lutter contre l'impunité.
Nord Kivu, l'électricité est rétablie dans de nombreux quartiers de la ville de Goma. Depuis le début de cette semaine, environ 70% de la ville bénéficie à nouveau de la desserte en énergie électrique. Pendant une dizaine de jours, Goma a été plongée dans le noir total car les installations des principales entreprises de production et de distribution d'électricité avaient été endommagées. Cela lors des violents combats entre les FARDC et les rebelles du M23. Le point avec Chris Mukand Matante.
Grâce aux garanties de sécurité reçues des parties au conflit, les équipes du Comité international de la Croix-Rouge ont pu travailler avec les techniciens d'une entreprise privée pour établir une ligne électrique alimentant 70% de la ville de Goma. Cela a permis de relancer la station de pompage d'eau de Kieshero, qui approvisionne plusieurs quartiers de Goma et divers établissements médicaux, dont l'hôpital Sebe Kandosho. Ces mots, on peut les lire sur le portail du CICR, résumant ainsi ce qui est fait pour le rétablissement de l'électricité à Goma. Les dommages causés aux installations électriques lors des affrontements armés autour et dans la ville de Goma avaient donné lieu à d'importantes perturbations des services essentiels. Des structures médicales ont rencontré des difficultés à garantir le standard d'hygiène nécessaire au contrôle des infections. D'autre part, l'interruption du système d'approvisionnement en eau potable a forcé la population à puiser de l'eau non traitée directement dans le lac Kivu, ce qui fait redouter la survenue des maladies hydriques. Myriam Favier, chef de la sous-délégation du CICR à Goma, affirme, nous citons, « Nous avons reçu plusieurs témoignages et sommes émus d'apprendre qu'au-delà des services publics essentiels, le retour de l'électricité a notamment permis à plusieurs personnes de passer des appels et d'avoir des nouvelles de leurs proches. »
Du côté du Haut-Katanga, plusieurs quartiers de la ville de Likasi sont plongés dans le noir depuis près d'une semaine. Cette situation affecte de nombreux secteurs, notamment le fonctionnement des médias locaux. C'est le cas de la radio communautaire du Katanga, RCK Likasi. Interrogé, le directeur de la gestion de la clientèle à la SNEL Likasi indique que cette situation est causée par une panne survenue sur la ligne moyenne tension. D'après Delphin Ilunga, ses équipes sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation.
Actualité internationale.
Les autorités sénégalaises ont décidé d'accorder 10 millions de francs CFA aux familles des 79 personnes tuées au cours des manifestations qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Chaque famille recevrait cette somme qui intervient comme une première mesure d'assistance annoncée par la ministre de la Famille. Cette mesure divise, contestée par l'opposition qui considère que cette indemnité est accordée en dehors de toute procédure judiciaire. Elle est toutefois saluée par Amnesty International au Sénégal. S'ajoute à cette mesure une aide de 500 000 francs CFA à plus de 2 000 ex-prisonniers libérés à la faveur d'une loi d'amnistie.
L'invité.
L'autocensure est recommandée en cette période pour couvrir l'actualité à Goma. C'est ce que conseille la directrice générale de la radio LFM aux médias encore actifs dans la ville de Goma. Dans cet entretien avec Denise Lukeso, Gisèle Kaimbani aborde également les conditions et l'environnement dans lesquels évoluent actuellement les médias locaux. Suivez.
Madame Gisèle Kaimbani, bonjour.
Bonjour Madame Denise Lukeso.
Décrivez-nous quelle est la vie des médias aujourd'hui à Goma.
Nous continuons à travailler. C'est vrai qu'après la prise de la ville de Goma par le M23 AFC, nous avons observé quelques jours avant même de lancer les signaux, parce que c'était même difficile de lancer les signaux, parce que toutes les fréquences de Goma étaient envahies par les fréquences du Rwanda. Alors nous avons lancé les signaux pour éviter que nous soyons effacés pratiquement. Alors c'était parmi les motivations qui nous ont poussé à d'abord à ouvrir les signaux, mettre la musique. Et lorsqu'on met la musique, déjà les auditeurs écoutent et disent, écoutez, les radios de Goma commencent à rouvrir. Parce que lors de la prise de Goma, c'était silence radio, aucune radio de Goma qui pourrait sortir, même juste pour balancer de la musique. Donc c'était aussi une manière de rassurer la population de Goma qui écoutait. Les radios commencent à émettre. Même si on ne respecte pas les programmes d'avant la chute de Goma, mais au moins le signal il sort, on peut écouter la musique. Donc c'était aussi une autre de motivation.
Comment travaillez-vous? Est-ce que les conditions de travail sont les mêmes qu'avant?
Je vous dis que les conditions ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on n'a pas encore commencé à diffuser les journaux. Parce que lorsqu'il faut diffuser une édition du journal, il faut vous rassurer d'avoir les sources d'information pour vérifier l'information. Des sources qui doivent être variées. Et dans le contexte de Goma, c'est difficile d'avoir 5 éléments pour un journal de 10 minutes. Parce que la censure ne concerne pas seulement le journaliste, même les sources d'information. Lorsque quelqu'un sait que vous êtes journaliste de Goma, vous l'appelez pour parler de la question de Goma et que sa voix sera écoutée à Goma, vous comprenez que lui-même, il a le temps de prendre votre demande à double sens. De dire, si je réponds, est-ce que je ne veux pas toucher les sensibilités locales? Et là, si je les touche, je me mets moi-même en danger. Donc vous comprenez que c'est très difficile de diffuser un journal équilibré, indépendant, et qui donne la bonne information à la population. Donc la censure est directement des deux côtés, du côté journaliste et même du côté de la source d'information. Donc il y a vraiment des difficultés dans ce sens-là. D'ailleurs, ça nous pousse jusqu'à présent à observer encore, à voir le contexte de la ville de Goma pour savoir comment est-ce qu'on va peut-être relancer les journaux, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on ne va pas dire, et ce qu'on va dire, comment est-ce qu'on va les dire. On est très limité et en dehors de ça, en parlant des finances, il n'y a pas d'argent carrément. C'est difficile de trouver un reportage où on vous paye $50 pour permettre de fonctionner. Donc, c'est quasiment difficile, la vie de médias. L'occupant, il est là. Nous aussi, de l'autre côté, nous devons travailler pour nous assurer quand même que nos auditeurs, ils ont les formations dont ils ont besoin.
Est-ce que tous les médias tiennent encore le coup aujourd'hui?
Je vais vous dire, Madame Denise, qu'aujourd'hui, sur une vingtaine, une trentaine de médias qui émettaient à Goma avant la chute de la ville, il n'y a pas 6 radios qui émettent. D'ailleurs, la plupart des médias ont été vandalisés, les émetteurs ont été volés et tout, les équipements pillés. Donc, nous qui sommes en train d'émettre, c'est aussi une manière d'assurer la population qui écoutait la vie est encore là. Actuellement, même pour réaliser une émission de 30 minutes ou d'une heure, c'est quasiment difficile. Aujourd'hui, par exemple, c'est jeudi, j'ai reçu quelqu'un pour une nouvelle émission. D'ailleurs, je vais dire que c'est la première depuis la prise de Goma que j'ai réalisé une émission en live. La première. Et le contexte, c'est que nous devons nous auto-censurer. Même les conducteurs, il faut être très regardant avant de passer au micro. Qu'est-ce qui sera dit? On se rassure qu'on ne fait pas la moindre allusion aux nouveaux occupants de la ville. Donc c'est vraiment très difficile, mais quand même c'est notre travail d'être là, nous sommes des journalistes. On sent que c'est une responsabilité sociale qu'on a d'être présent pour les auditeurs, même si ce n'est pas au même degré qu'avant. Et encore pour les femmes, c'est encore de plus en plus difficile. Vous pouvez vouloir rejoindre une source pour vous taxer de tout et de rien, mais on fait la limite du possible. Lorsqu'on réussit, on réussit, parce qu'il aussi faut préserver la vie. Donc le travail d'aujourd'hui n'est pas vraiment comme celui d'avant, mais on s'efforce de donner les minimums possibles pour que la population se sente quand même qu'il y a une certaine vie qui est en train de commencer, même si ce n'est pas encore arrivé au même degré où nous sommes en train de vouloir aller.
Gisèle Kaimbani, directrice générale de la radio LFM à Goma, répondu aux questions de Denise Lukeso. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.